sais, j'ai comme trois carrières complètement différentes. Ce qui a causé un peu de problème au retour au Québec, parce que le monde regardait mon CV. Puis, je sais pas combien d'entrevues j'ai passé. La fille des ressources humaines, elle capotait, là. Elle était comme, OK, t'as fait des trucs super intéressants, tu sais. Hey, il fallait défendre des pirates en Somalie, à un moment donné, là. C'était vraiment cool. Mais, tu sais, ils regardaient ça, puis ils font comme, on sait pas où te mettre. Pourquoi t'appliques ce job-là? Je cherche un job, tu sais. Je te jure que je vais être bonne là-dedans, puis là-dedans. Les gens n'apprécient pas tant que ça, l'expérience différenciée, là. Tu sais, les CV atypiques, ça peut être atypique, mais pas trop. Le bien était vraiment comme hors norme. Fait que tout ce qui a fonctionné, c'est du bouche à oreille, des gens qui m'ont connu. Puis là, ça a fonctionné. Mais sinon, juste sur CV, là, je passais en entrevue, puis les gens, ils. Tu sais, je me suis fait dire par des filles, là, t'es le cauchemar des ressources humaines. On sait que t'es compétente, on sait pas où te mettre. Fait que, qu'est-ce que je te réponds? Ben, prends une chance. Mais ça fonctionnait pas. Ça a été long, là, ce côté-là.
Bienvenue au 27e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gem et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Julie Veillette, mon invitée d'aujourd'hui, a ses origines à Saint-Stanislas. Elle a passé ses étés d'enfance au bord de la rivière Batiscan avec tout son cousinage dans une famille étendue, ce qui l'a très bien préparée à vivre pendant 19 ans en Tanzanie, où elle a été d'abord jeune avocate au service de la défense dans le cadre du Tribunal pénal international pour le Rwanda, puis propriétaire d'une agence de voyage organisant des safaris. Tenez-vous bien, on la trouve aujourd'hui à Québec, où elle travaille dans le secteur financier. Bien qu'elle porte le nom le plus courant de notre génération, elle n'a pas eu une vie ordinaire à date. Vous allez adorer partager ce moment avec nous. On se retrouve à la fin. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à la quarantaine Julie Veillette. Bonjour Julie.
Bonjour Brigitte.
Je dois dire que je pense que tu es la troisième Julie que j'interview. C'était un nom extrêmement populaire dans notre génération.
Extrêmement. J'ai passé mon primaire à avoir 4 Julie dans ma classe en général.
Alors, Julie V, Julie C. Alors, c'est Julie Veillette que j'ai avec moi aujourd'hui. Et ton nom, ton âge doit être dans la quarantaine pour participer. Quel âge as-tu?
45 ans.
Parfait, en plein milieu de quarantaine, c'est super. J'aimerais commencer l'entretien en te demandant de nous parler un peu de ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais au jour le jour? Quel chapeau tu portes? À quoi ça ressemble ta vie?
Ben, je dirais que je porte 2 chapeaux et demi. Je travaille pour un groupe présentement en finance qui s'appelle Financap, qui principalement roule des régimes enregistrés d'épargne invalidité et vend des fonds mutuels pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est mon boulot pour l'instant. Je suis aussi maman de deux enfants, un de 8 ans, une de 17 ans, qu'on a dû réintégrer au Québec là, il y a 2 ans. Donc, on est encore dans des processus d'immigration, je dirais. Même si moi, je suis québécoise, eux ne l'étaient pas. Et je suis propriétaire encore d'une compagnie de safari en Afrique, en Tanzanie, qui me demande là, quelques heures là, par semaine là, de supervision.
Donc, est-ce que tu vis sur 2 fuseaux horaires en même temps? Comment tu gères ça?
Je sais pas. Le matin, avant que l'école commence, je gère l'Afrique. Puis c'est pas tous les jours, là. C'est vraiment dans les situations macro que c'est pas le day-to-day que je fais, c'est vraiment des enlignements politiques de compagnie, de gestion de compagnie à long terme, des stratégies que je fais avec certaines personnes en particulier. Donc ça se fait le matin, là, soit quelque part entre 7 et 9. Eux sont en fin de journée, moi je suis en début de journée.
Et si j'ai bien compris, ton conjoint est encore en Afrique ou à tout le moins à temps partiel? À s'occuper
oui.
Aussi de l'entreprise là-bas, c'est ça?
Exactement. Lui, il s'occupe de l'entreprise à temps plein. Donc, il fait des allers-retours là, entre la Tanzanie et le Canada.
Est-ce que c'est un Tanzanien?
Oui, c'est un Tanzanien, mon conjoint.
OK.
Oui.
Ben, j'ai hâte de
donc, mes
de
enfants
faire
sont
raconter
moitié-moitié. Oui.
Comment vous vous êtes rencontrés. Comment ça se passe tes journées? Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin?
Ah, ben, le matin, je me lève, je prépare les lunchs, j'envoie le plus jeune à l'école. La grande, elle s'occupe toute seule, puis elle s'envoie toute seule à l'école, parce qu'à 17 ans, tu es en secondaire 5. Donc, il y a plus d'autonomie.
Wow!
Puis, après ça, je travaille du bureau de la maison. J'ai un bureau à la maison. Donc, j'appelle des clients, je fais différents aspects. J'essaie d'aller m'entraîner au moins deux, trois fois semaine au gym sur l'heure du midi quand je suis capable. C'est le meilleur temps pour moi. Puis bon, la fin de soirée, les gens viennent de voir de dos, souper, puis la soirée est finie. Puis les fins de semaine, là c'est l'hiver, on fait beaucoup de ski. Québec, c'est vraiment le fun pour ça. On a des passes de saison, donc on va faire du ski là, une à deux fois par fin de semaine. Là, on est en mi-janvier, puis on en a déjà fait là, 8 fois. Donc,
Oh, wow, c'est le
ouais,
fun.
quand même. Ça, c'est vraiment le fun. Bah, ça ressemble à ça. C'est une petite vie tranquille. Je n'ai pas rien d'exceptionnel. Je vois des amis une fois de temps en temps. Puis, c'est ça. Ça se résume à ça.
Je suis curieuse de savoir, tes enfants ont 9 ans de différence.
Oui,
C'est,
c'est le
je sais
même
pas si
père.
c'est plus que la moyenne. Euh,
Oui.
comment, comment ça se passe entre eux puis avec toi dans cette dynamique-là?
Super bien. J'ai vraiment des enfants assez faciles, assez adaptatifs. Ma plus grande, c'est une fille. Donc, elle a 17 ans, elle a un côté très maternel. Donc, c'est quasiment des fois la deuxième mère de mon garçon. Ils rigolent beaucoup ensemble. C'est sûr que là, ça va mieux parce que mon garçon, à son âge, il vient d'avoir 8 ans. Donc, les activités entre une 17 et un 8 ans, ça se fait mieux qu'entre je sais pas moi, un 12 et un 2 ans. Tu sais, c'est plus difficile à trouver des activités communes. Hein. Aller faire du ski tout le monde ensemble, ils suivent. Même lui, il va beaucoup plus vite qu'elle. Non, mais c'est de la bicyclette, tout ça. Ils sont capables, on est capables de faire des randonnées plus longues. C'est sûr que pendant un petit bout de temps, c'était plus dur de trouver des activités que les deux appréciaient. C'est ça, le côté plus plate d'avoir des différences d'âge. Mais ça te permet d'avoir du temps particulier avec chaque enfant là, quand tu as des différents âges. Des fois, je fais des activités juste avec ma grande. Des fois, je fais des activités juste avec le tout petit. Fait que ça ce côté-là de bon. Mais entre eux, ils ont vraiment un lien serré, là. Elle le défend. Des fois, elle chicane comme une mère. Lui est vraiment très attaché, là. Si y en a, il dit quelque chose, là, il le fait, là. C'est vraiment. C'est très. Ils sont très. Comment attacher l'un à l'autre, malgré la différence d'âge.
Je peux imaginer que même des fois, ça passe mieux si c'est elle qui s'en occupe que toi.
Oui, non, des fois, oui, des fois quand c'est des sujets plus complexes, tu vois qu'il veut une problématique avec un ami, puis tu sais quoi dire, mais si c'est la mère qui dit ça marche pas, mais si c'est la sœur qui donne le bon conseil, hey boy, ça marche. Fait que souvent, des fois, moi puis elle, on en parle, on dit, hey, okay, la misère là-dedans, dis donc, hey, ok, je vais m'en occuper, là, puis là, elle s'assoit avec, puis elle parle en démo, hey man, ça serait plus cool de faire ça, puis ça passe super bien.
J'adore
Ouais.
ça.
Ouais.
Puis, tu me mentionnais avant qu'on commence l'entrevue que ton conjoint fait l'aller-retour entre la Tanzanie et Québec. Comment ça se passe? Tu dis ma vie n'a rien de spécial, là, mais tu sais, c'est pas le commun des mortels
Ben
qui vivent comme ça.
avant la, tu sais, nous on habitait quand même en Tanzanie là, je veux dire, ma fille elle a 17 ans, puis j'habitais en Tanzanie pendant les 19 dernières années de ma vie. Je veux pas là, je connais très bien la Tanzanie. La distance comme ça, on l'a quand même souvent vécu là. Ça arrivait souvent que moi je venais au Québec pendant 2 mois sans lui là. C'est pas quelque chose d'inhabituel. Puis lui, il partait souvent avec des clients en safari, fait que ça arrivait des fois des 3 semaines, partir, t'sais, revenir. T'sais, on n'a pas l'espèce de fusion. Puis je pense avec la différence culturelle, si on avait besoin d'un couple fusionnel, d'être tout le temps ensemble à la même place, ça serait impossible. C'est sûr que ça amène son lot de challenge. C'est pas toujours facile. Des fois, t'es comme là, tu m'énerves, là. J'ai 10 millions de choses à gérer, puis t'es pas là, puis tu réponds pas. Ben tu sais, ça se place tranquillement. Puis, ben, c'est sûr que bon, on ne sait pas ce qui réserve l'avenir, mais pour l'instant, ça se gère comme ça avec les enfants, puis tout. Puis tout le monde l'a accepté.
OK, je vais te poser plus de questions plus tard,
Oui.
mais je mets une note, je me mets un post-it
Oui.
de te poser quelques questions sur la transition du retour en Tanzanie, parce que je peux imaginer que ça, ben, c'est pas exactement pareil, la
Non.
vie à Arusha et la vie à la ville de
Non.
Québec.
On y reviendra.
Alors, j'aime commencer, vraiment commencer l'entretien en te faisant parler de tes racines, de tes origines. Tu peux me parler d'un horizon de 40 ans ou de 400 ans, selon ce qui te convient, ce qui te parle. D'où viens-tu?
Je viens d'une famille des deux bords typiquement québécoise. Dans le typique de typique, là, chez les Veillettes, là, mon ancêtre, c'était une fille du roi. Et Jean Veillette, qui était l'ancêtre en premier, faisait partie là, des soldats qui étaient venus au début de la colonie. Donc, tu sais, il n'y a comme pas plus typique que ça. Mon père, son 10 enfants chez eux viennent de la Mauricie, à Saint-Stanislas, au pays d'Émilie Bordelot, s'il y en a qui s'en rappellent de cette
épisode-là,
des filles de Caleb. Donc, et ma mère de Saint-Narcisse, du village à côté, là, l'historique des Gervais, je le sais moins, là, mais ça remonte aussi le même genre de. Ça vient de Normandie, des ancêtres. Là. C'est vraiment québécois pur laine, comme on dit. De deux parents de deux villages voisins, là, d'une famille de cinq enfants. Ma mère, un petit peu plus. Les deux grands-pères bûchaient dans le bois pendant longtemps. Chez ma mère, mon grand-père était sourd-muet. Donc, oui. Lui, c'est sûr que la famille était un petit peu plus atypique, mais il était très, malgré le fait qu'il était sourd, il était très, très intégré dans la communauté. Ma grand-mère, elle était demi-sourde. Elle, il y avait plus de génétique, de problématique de sourdité dans sa famille. Mon grand-père, c'est une exception. Il était comme, je pense, 12 dans sa famille, puis c'est le seul, fait qu'il pense que la mère est entrée en contact avec la polio ou une autre maladie infantile quand elle était enceinte, là, ce qui a donné de la sourdité chez mon grand-père. Tandis que ma grand-mère, c'était vraiment, il y avait un côté génétique à ça.
Ils ont eu des enfants qui n'étaient pas sourds.
Non, tous pas sourds, puis les petits-enfants sont tous pas sourds non plus. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Ça devait être pas mal rock'n'roll dans cette maison-là. Il y avait cinq enfants, tu dis?
Oui, mais oui, cinq enfants, c'était normal, dans le fond. Comment je peux dire? C'est, nous, on le voit rock'n'roll, mais la réalité... quand tu vis, tu sais, moi je me rappelle aller voir mon grand-père, c'était normal que mon grand-père soit sourd. Tu es habitué là-dedans, ta normalité, c'est que ton grand-père, le père de ta mère, il est sourd, puis tu sais, il nous parlait, il adaptait son vocabulaire, il faisait des blagues. Puis mon grand-père avait une très grande intelligence brute, je te dirais, parce que malgré, tu sais, on parle là, début du siècle, il était capable de lire et écrire, il avait été à l'Institut sourd, fait qu'il lisait, il écrivait. Il était imbattable aux dames. Et je veux dire, il y a des gens qui se mettaient genre 5 contre lui. Là, il a fait beaucoup d'argent avec ça. Donc, il avait quand même une bonne capacité d'adaptation de ce côté-là. Puis, il vivait, il était bedeau dans la paroisse. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupait là, du ménage en église, de creuser les tombes. Et il avait une très grande force physique aussi. Il avait 75 ans. Mon père faisait le chalet. Il a eu des enfants très tard. Parce que rencontrer ma mère, ma grand-mère, elle avait 38 ans. Ma grand-mère, elle avait 28 ans. Donc, ils ont commencé leur famille tard, 5 enfants et non 10, comme mon père. Et quand mon père a construit le chalet qu'on était à Saint-Stanislas un peu toute notre enfance, il fallait monter des bardeaux d'asphalte. Il faisait 35 cette journée-là. Puis, les gars de la construction, c'est la bonne journée pour mettre de l'asphalte. Quand il fait chaud, ça va bien coller. Et il a monté toute la journée par des paquets de bardeaux d'asphalte, c'est énorme. Ça doit peser à peu près 80 livres chaque. Là. Deux par deux, ses épaules, il montait, puis il descendait l'échelle. Et il avait 75 ans.
Wow! Une
force de la nature. À 85 ans, il joue au hockey dans une ligue de vieux, puis c'est le seul qui a compté un but.
C'est un personnage! Est-ce qu'il est encore parmi nous?
Non, il est décédé. J'avais plus ou moins 20 ans. Puis il avait déjà 98 ans à l'époque. Et il y a eu 3 mois de morbidité. Il y a eu un truc au cerveau, là, un stroke.
Un AVC, pardon.
Merci, c'est ça que je cherchais comme mot. Et il est tombé complètement en légumes pendant 3 mois de temps. Puis il est décédé. Il ne s'est jamais aperçu qu'il était malade, dans le fond. L'été avant son décès, c'était en septembre, là, il tondait son gazon. Il s'occupait de ses fleurs et son parterre, là, il ne mettait pas de produits chimiques, il n'avait aucun pissenlit. Il les arrachait un par un.
C'est encore il était très flexible, pas de problème de dos non plus.
Non. Puis lui, ça avait une histoire qui m'a toujours fait rire. Eux, ils vivaient en face du centre d'accueil, dans un petit village. Puis ma grand-mère a trouvé que c'était trop loin d'aller à la messe. Elle allait à la messe systématiquement tous les dimanches. Il trouvait que c'était trop loin aller à la messe au village, là. C'était plus loin. Puis elle avait toutes les amies qu'elle connaissait qui étaient au centre d'accueil, mais elle était dans sa maison, puis c'était juste en face, le centre d'accueil. Puis c'était Pâques, et ma grand-mère voulait partir une demi-heure d'avance pour souhaiter joyeuse Pâques à tout le monde. Là, il faut comprendre que mon grand-père a 95 ans à peu près, là, plus ou moins là, à l'époque. Et là, il bretait, il attendait, puis il tournait en rond. Puis là, à un moment donné, ma grand-mère, elle se tâche, elle s'en va, puis il me regarde, puis il me dit, ah, ben c'est en sourmuel, elle dit, je veux pas y aller. Il dit, c'est tous des vieux, puis ils ont plein de bobos ses mains, ouais, ça me dégoûte. Puis il était probablement plus vieux que tout le monde au centre d'accueil. Donc la vieillesse a beaucoup à voir à ce que tu as dans ta tête, je pense. La
c'est perception relatif.
De toi-même. Oui,
c'est très relatif.
Oui. Exactement.
Quel personnage, écoute, tu me donnes le goût de faire un podcast qui s'appellerait Les Vieux. Il me semble que.
C'est clair.
Il y a des ouais. histoires qui se perdent, qu'on capture pas beaucoup. Mm-hmm. Surtout, bon, les podcasts, c'est un médium avec des plus mm-hmm. jeunes souvent, mais il me semble qu'il y aurait des bonnes histoires à capturer.
Ah, c'est clair, il y en aurait des bonnes, oui.
Ben, c'est plate
qu'on... Ben lui, on l'aurait pas entendu parler, mais tu aurais pu le filmer peut-être avec un traducteur.
Ben, c'est ça, moi, je le dis maintenant pour que d'autres l'entendent. J'aurais aimé beaucoup et j'espère encore trouver une personne sourde qui serait intéressée à participer au podcast avec, si besoin, et le soutien d'un traducteur, de quelqu'un qui peut traduire en langage sourd-muet que malheureusement je ne maîtrise pas, mais il me semble que ce serait vraiment intéressant d'avoir une perspective différente aussi. La culture sourde est souvent très séparée de la culture
oui,
des entendants.
Vrai. Beaucoup. Dans plusieurs cas, moi, c'est sûr que mon grand-père, c'est une exception là, à la règle, je dirais.
J'aime vraiment cette histoire-là. C'est une des vraiment bonnes histoires de grand-père que j'ai entendues depuis que je fais cette série-ci. Et donc, parle-moi un peu plus de ton enfance à toi, de tes parents et de ta vie, ta jeunesse.
Mon enfance, je vivais sur la rive sud de Montréal. Famille, revenu moyen, on faisait beaucoup de ski, beaucoup d'activités. On avait un chalet, donc je passais mes étés, ben pas tout l'été parce que maman travaillait, mais souvent on prenait des longs congés les étés, là, des fins de d'été. Donc on passait une grosse partie, tous les week-ends, une partie de nos fins de semaine à Saint-Stanislas, donc en campagne. Donc j'ai toujours eu cette dualité de vie. Tu sais, je vivais en ville avec des amis de ville, je vivais en campagne avec des amis de campagne. Je faisais des activités de ville, je faisais des activités de campagne. Puis j'aimais vraiment les deux. T'sais. C'était pas un ou l'autre, c'était un et l'autre. C'était comme une normalité dans ma vie, moi, d'avoir cette chose-là. Puis en campagne, j'avais vraiment beaucoup de cousins et cousines qui habitaient encore le village. Et quand on arrivait là, c'était toujours la joie aussi. Là. C'était pas un calvaire, même quand on était plus vieux, là. Même quand j'avais 15 ans, là, je suivais avec joie là, dans les parties de famille et puis dans les. On a une famille immédiate qui est très drôle. Je veux dire ça. On fait quand il y a des activités de famille, tout le monde participe, tu ne participes pas parce que tu ne peux pas habituellement. Ils se font, je veux dire, qu'il y a autant des trucs, des parties qui vont Noël Pâques, ce genre de trucs-là qu'ils vont faire, mais il y a aussi, des fois, là, il y a la game de balle familiale à Saint-Stanislas. Fait que là, c'est toutes les grosses familles. Donc, c'est les Veillettes contre les Trudel, contre les Bouchard. Et là, tout le monde se crée tu crées une équipe de balle de ta famille. C'est très drôle. Il y a de la musique, il y a de la danse en même temps. Fait que, ça a toujours été une ambiance très festive dans ma famille. Même quand on était au chalet, puis il y avait notre chalet, le chalet de ma tante, un terrain avec une maison mobile de mon autre tante, un terrain vague. Il y a des gens qui descendaient avec des tentes aussi les week-ends des fois. Donc, c'était tout le temps un peu là, l'espèce de vie de communauté. Puis tu te faisais autant que tu te faisais aimer. Autant que tu te faisais chicaner, là. Tu sais, tu faisais une niaiserie quand tu étais jeune, là. Il attendait pas que ta mère revienne pour dire, hey, là, elle a fait ça. Faudrait... Non, c'était débarque de l'eau, là. Il y a personne qui te surveille, là. Quand tu vas sur le bord, parce qu'il y avait une rivière qui était quand même relativement dangereuse, qu'on n'avait pas le droit d'approcher tant qu'il n'y avait pas un adulte qui nous surveillait, c'est, hey, sors de là. C'était vraiment ça, là. Mais en même temps, tu te faisais écouter par tout le monde.
C'est le village, le fameux village pour élever un enfant. En t'écoutant, c'est peut-être, je m'excuse d'avance si ça sonne comme un stéréotype, mais j'ai l'impression que ça t'a bien préparé à vivre en Afrique.
Oui, pour moi, c'était extrêmement facile de tomber dans des grosses familles, dans des espèces de milieux où que, tu parles de la cousine, du cousin, de l'ami, du voisin. C'était comme une normalité déjà dans ma tête. Fait que moi, que le monde débarque chez nous sans appeler... Ben, c'était normal parce que quand j'étais petite, ils débarquaient au chalet sans dîner. Je veux dire, les gens passaient, puis ah, ben, reste donc, puis prends une bière avec nous, ou si on s'en va en bateau, viens avec nous. Tu sais, c'était vraiment pas problématique de ce côté-là. Fait que oui, ça m'a bien préparé. Puis j'ai eu des amis africains qui sont venus avant même que j'aille en Afrique, qui sont venus là-bas, puis tu sais, sa réaction, ça a fait, mais c'est la première fois que je suis en Afrique au Québec, tu sais. Ça a un peu été ça, sa réaction, là. C'est un peu ça. C'est vraiment un village où les gens, tu sais, se côtoyaient, se chicanaient un peu des fois, mais plus souvent, avaient beaucoup de fun ensemble. Puis c'était un peu ça. Puis oui, c'est vrai que ça m'a préparé, c'est clair. Parce que là-bas, c'est un peu le chaos des gens tout le temps, là. Tu sais, le monde, ça débarque, ça vient, ça parle. Ça ne calcule pas d'avance que ça va arrêter chez vous. Donc, quand ça arrête chez vous, ben, salut! C'est tout.
Ben oui, on faisait ça moi aussi quand j'étais petite. T'sais, mon père est d'une famille de 17, ma mère de 11. Fait que t'sais, on avait pas mal de mon oncle puis de ma tante, des cousins tout partout. T'sais. Puis on allait faire une commission. Puis là, ben, on va passer par chez mon oncle Benoît, t'sais, parce qu'il habite sur le chemin. Puis on débarquait, je veux dire, on n'avait pas de cellulaire, on les appelait pas d'avance pour leur dire qu'on arrivait, puis c'était normal. Alors que clairement, aujourd'hui, ça fait pas partie des mœurs pour la
Non, puis
plupart des gens.
ça m'a pris du temps, là. Je veux dire, quand je revenais au Québec, moi, pendant un mois de temps, puis j'étais à Montréal, ben, ça arrivait souvent que je débarquais chez mes amis, sans les appeler, tu sais. Je veux dire, regarde, on se connaît, ça fait 15 ans qu'on se connaît, chérie, là, on habite ensemble. Je débarque chez vous, puis t'es occupé, ben, je vais juste m'en aller, c'est pas grave, là. Tu sais, mais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait de la remarque, qui a dit, je sais que c'est toi qui arrives, parce que t'es la seule personne qui cogne sans appeler avant, que j'attends pas. J'ai comme, ah, ouais, c'est vrai. Ah, faudrait peut-être que j'appelle le monde avant. C'est vraiment été, je dirais, que j'ai gardé beaucoup plus longtemps, là, quasiment jusqu'à 30, 35 ans, là, facile, cette habitude-là qui était complètement perdue au Québec, déjà.
Ouais, c'est pas une mauvaise affaire. Moi, je pense que si tu passes par Vancouver, viens cogner à ma porte sans appeler, ça va me faire plaisir. Ouais, c'est quelque chose que je vois pas aussi. Il y a pas beaucoup de gens autour de moi ici, en tout cas, qui viennent de grandes familles. Puis cette idée-là, là, de débarquer à l'improviste, la convivialité, puis l'hospitalité qui sont attachées à ça, moi, je trouve ça très précieux. Puis ça me manque, je le dis officiellement. Alors, si vous venez à Vancouver, vous êtes à l'écoute aujourd'hui.
Ça fait
Faites-moi signe
plaisir.
parce que j'ai pas de porte sur la rue, tu sais, mais faites-moi signe, puis même si je suis pas préparée, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Voilà.
Ah, c'est bon.
On en prend
Bien,
bonne
bien
note.
retenu.
N'est-ce pas? Alors, parle-moi un peu de ce qui t'est arrivé après, vite, vite, l'école, ce genre de choses-là.
Mais après ça, je suis allée au cégep, dans le fond, et à l'université en droit. J'ai choisi droit, pas parce que je voulais nécessairement être avocate ou notaire. J'ai choisi droit parce que je ne savais pas dans quoi m'en aller. Et en droit, il y avait un paquet de sujets que ça couvrait, là, autant du point de vue économique, social, environnemental. J'étais comme, waouh, c'est quand même cool, ça couvre tout ça. Je vais m'inscrire en droit. C'était vraiment mon motif principal. Je n'avais pas le désir nécessairement là, de la toge, de l'avocat, du statut que ça représente nécessairement en société. C'était même pas ça. J'avais même pas là, la vision que je vais aller faire mon barreau après quand j'ai commencé. C'était vraiment, ah wow, ça va être une belle matrice pour comprendre le monde. Ça a été vraiment mon but de rentrer en droit. Donc, je suis rentrée en droit. Après ça, j'avais toujours eu une patte sur le bord du chemin, comme dirait ma mère. J'ai toujours aimé voyager. J'étais toujours, ma valise était toujours faite. Ça avait été toujours quelque chose que j'aimais. Tu sais, quand on était petite, des fois, mais bon, après ça, ils ont dit qu'ils le prévoyaient, là, mais souvent, dans les vacances de la construction, mon père, il y avait 2 semaines de vacances. Il n'y en avait pas un mois et demi. Fait que s'il pleuvait dans les vacances de la construction, là, mon père, il aimait ça, le soleil, puis qu'il fasse beau. Il nous réveillait, tu sais, s'il pleuvait, là, vendredi, samedi, dimanche, la première fin de semaine, là, lundi, il nous réveillait genre à 6 h du matin. On s'en va. Puis on partait, puis on descendait aux États-Unis jusqu'à ce qu'il fasse beau. Des fois, ils disaient, là, après des années, on pensait qu'ils décidaient sur le coup même, mais après ça, on s'est rendu compte que non, là, ils disaient, non, on l'avait un petit peu planifié, mais on n'était pas sûr, fait qu'on ne vous l'avait pas dit. Mais tu sais, nous, c'était comme une surprise. Ah, on s'en va, écoute, on faisait nos valises vite, vite, puis on partait, là. C'était un peu
La spontanéité,
la
c'est donc belle fun.
spontanéité de partir comme ça. Puis ça m'a toujours resté. Puis en droit, quand on a commencé, c'était tout le développement des tribunaux pénaux internationaux. Donc, tout l'international, le voyage, la grandeur du monde et la compréhension du génocide, des guerres, c'est quelque chose qui m'avait fascinée. À 17 ans, j'avais fait mon premier voyage en France et j'avais réalisé pour la première fois que la guerre existait. Ça va être bizarre à dire comme ça, mais dans ma tête, la guerre était toujours historique. C'était quelque chose d'abstrait. C'était la Deuxième Guerre mondiale, c'était vieux, le monde était mort, ta, 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 ta. Et tu arrives en France et les gens te parlent, les vieux te parlaient de c'était comment pendant la guerre, de comment qu'ils avaient vécu, comment qu'ils avaient souffert, des gens qui avaient décédé, de leurs conjoints qui étaient décédés quand ils étaient jeunes, de la peine qu'ils avaient eue. T'sais, bref, il y avait plein de monuments. C'était plus quelque chose d'historique, c'était quelque chose de réel. Donc, ça m'avait fasciné à partir de ça, mes 17 ans. Ce côté-là, c'est quand je suis rentrée en droit, mais c'était le développement, le tribunal pénal pour le Rwanda, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie commençait. C'était comme tous les grands procès, puis je me suis beaucoup intéressée à ça. Et j'ai eu la chance de faire mon stage, dans le fond, j'ai fait le barreau, puis j'ai fait mon stage du barreau au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, et après ça, j'ai été engagée au tribunal pénal pour le Rwanda, là, à titre d'avocate à la défense. L'adjointe, dans le fond, là, de junior, avocate junior.
Wow! Donc,
Oui.
redonne un peu de contexte au cas où il y a des gens qui nous écoutent qui se souviennent pas trop, là, mais donne un petit peu de contexte sur le background du tribunal pénal pour le génocide du Rwanda.
En 1994, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un gros génocide au Rwanda, c'était les Tutsis contre les Hutus. Plusieurs millions de morts. Donc, ça a créé vraiment un gros conflit civil. Et ils ont décidé de créer le tribunal pénal pour le Rwanda pour juger des plus hauts responsables du génocide. Et c'était là, le début, dans le fond, avec le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, là, qui avait Milosevic, ces procès-là, le début de ce qui s'appelle le droit pénal international. Puis maintenant, il y a la Cour pénale internationale, mais ça, c'était comme les prédécesseurs de ça. Ça sortait du Conseil de sécurité, dans le fond, de l'ONU. C'était eux qui ont instigé ça. Le but, c'était de ramener la paix dans ces régions-là. Puis on s'était dit qu'on ne peut pas ramener la paix sans faire une certaine justice aux victimes.
Et le procès se tenait où? Le tribunal se tenait
À
où?
Arusha. À Arusha, en Tanzanie. C'est ça qui m'a
OK.
emmené à Arusha, en Tanzanie. Pourquoi qu'il tenait...
Ah.
Ah! Le lien avec la Tanzanie. Pourquoi qu'il tenait à Arusha? C'est qu'il y a eu un... Bon, les gens l'ont probablement oublié, là, mais... Un des éléments déclencheurs du génocide au Rwanda, ça a été l'écrasement de l'avion qui a tué le président, le vice-président, le chef de l'armée du Rwanda. Et ça c'était suite à des accords de paix qui s'étaient tenus à Arusha. L'autre chose, c'est qu'en Tanzanie, il n'y avait ni d'ethnicité tutsi, ni d'ethnicité rwandaise, là. C'est un des seuls pays dans la région, là, de façon massive. Donc, c'était très neutre comme pays de ce côté-là. Et même de point de vue ethnique, la Tanzanie, c'est un pays très, très neutre. Les gens se disent Tanzaniens avant de dire leur ethnicité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une ethnicité qui serait capable de prendre le pouvoir par elle-même. Il n'y a pas une majorité. Il y en a comme 120 tribus différentes. Donc, c'est pas, c'est des tribus qui parlent des langues, des dialectes différents, qui ont vraiment des habitudes de vie complètement différentes aussi. Donc, c'est vraiment très, très diversifié de ce côté-là. Et ça fait en sorte qu'il n'y a pas, il y a pas cette. T'sais, bon, historiquement, il y a d'autres raisons, là, mais les gens sont vraiment fiers d'être Tanzaniens. Et après ça, ils vont tomber dans leur nationalité. Il n'y a pas ce côté où la moitié du pays est d'une nationalité et est capable d'avoir plus de pouvoir ou plus de ressources.
Donc, tu te retrouves à travailler pour la défense, juste pour clarifier pour quelqu'un qui ne suit pas, là, ça veut dire les méchants,
Oui. Oui.
en termes,
Bon, je
les
travaillais pour les
auteurs
méchants.
potentiels du génocide,
Oui, moi,
ben, pour
j'étais en
leur défense,
prison.
en tout cas.
Pour leur défense, exactement. Donc, puis là, tu sais, en gros, on était payé. Moi, j'étais avocate junior. Assistante, parce que là, assistante juridique, là, c'est vraiment l'équivalent d'avoir un avocat junior. On était un team de cinq. En général, il y avait deux avocats seniors qui avaient plus que 10 ans d'expérience. Un assistant juridique qui était une avocate junior, puis deux enquêteurs qui étaient généralement rwandais, des gens relativement bien éduqués, souvent des gens qui avaient des backgrounds aussi juridiques. Donc, c'est à peu près une équipe normale de défense. On était payé par les Nations Unies. On était comme l'aide juridique des Nations Unies. Puis, on s'assurait que la personne qui était accusée de génocide a une défense. Après ça, tu vas dire, mais c'est quoi cette fascination pour les méchants? Pourquoi tu étais du bord des méchants? Pourquoi tu descendais? Bon.
Ben, il faut que quelqu'un le fasse. Moi, je
C'est
suis pas
ça.
contre ça, mais je trouve ça.
Oui.
Je me dis que ça doit colorer l'expérience, en tout cas, là.
C'est sûr que ça colore l'expérience. J'aurais beaucoup de difficultés d'être du côté du procureur. Être du côté du procureur, c'est un peu plus être du côté policier. Je veux dire, quand tu es du côté de la défense, il faut que tu aies une foi en le système. Faut que tu aies la foi que si la personne, parce que tu sais, c'est pas parce que tu les défends que tu aimes nécessairement ce qu'ils ont fait. Toi, ta job, là, c'est, il y a énormément de pression sur ces gens-là. Imaginez un procès médiatisé au Québec, là, la pression que tout le monde met pour mettre en dedans cette personne-là. Multipliez ça par 1 000, puis dites-vous que ce tribunal-là a déjà été fait pour accuser des personnes de génocide, des plus hauts responsables de génocide. Fait que si tu es devant ce responsable-là, c'est qu'eux, ils pensent que tu es un des plus hauts responsables de génocide. La pression est énorme. Toi, ta job, c'est juste de repousser de la pression pour lui laisser assez d'espace pour expliquer sa version des faits. Okay? Puis de l'expliquer de façon juridique pour que la Cour puisse prendre en note tous les aspects. Si son histoire n'a pas de bon sens, là, si ça ne fait pas d'allure, ben il va se ramasser dans la prison pour le reste de ses jours. Mais si sa version fait de l'allure, puis on a eu des clients avec la version, c'était beaucoup plus mitigé que ce que le procureur pouvait dire. C'était beaucoup plus subtil. Ben, les peines sont sans conséquence. Donc, il n'y a pas de. Ton but, c'est pas de prendre parti puis de croire tout ce que la personne dit. Puis, tu sais, quand ça faisait pas de sens, on lui disait, ce que vous dites, monsieur, ça fait pas de sens. Oh, mais c'est ça qui s'est passé, je vais lui dire. Ça. Je lui dis ça, c'est ça qui va arriver. Effectivement, c'est ça qui est arrivé. Donc, mais tu sais, c'est pas de mentir, c'est pas d'inviter ton client à mentir, mais pas du tout. C'est juste de lui laisser une possibilité d'expliquer sa version des faits correctement. C'est ça ta job d'avocat de la défense, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs. Et ça, moi, j'ai beaucoup plus de facilité, j'ai beaucoup de difficultés à accuser quelqu'un, me dire, je dormirais très mal la nuit de me dire que j'ai mis quelqu'un en prison, j'ai mis des faits que je ne croyais pas nécessairement à 100% de l'avant. La cour m'a cru, mais moi, je suis pas sûre que c'est vraiment ça, je dormirais très, très mal. Les gens accusés de génocide, il faut comprendre, on les voit comme des méchants noirs, sombres. C'est des gens qui, avant le génocide, je dirais, à part quelques-uns qui ont fait quelques crimes économiques, de blanchiment d'argent, je dirais, ou de subtilité d'argent, mais à part ce côté-là, là, c'est des gens qui ne se battaient pas, c'est des gens qui ont fait la Sorbonne, qui ont hyper éduqué, hyper bonne manière. C'est des dirigeants politiques, c'était des maires, des gens qui ont une élocution parfaite. Un français plus que parfait. C'est vraiment, c'est des gens extrêmement éduqués. Tu arrives en prison, c'est la prison la plus calme au monde. Là, les gens sont assis, ça joue aux cartes tranquillement, ça parle, ça se tire les chaises. Oui, asseyez-vous. T'sais,
Excusez-moi, non vous
ouais,
d'abord.
non, complètement, là, tu sais, c'est pas l'image noire. C'est des gens qui n'ont jamais fait de crimes violents avant le génocide. Puis, en situation de guerre, c'est une situation spéciale qui arrive dans le fond. Les gens vont réagir d'une certaine façon. Puis eux, ils l'expliquaient. Dans le fond, ce qu'ils t'expliquaient, à peu près tout, là, c'est que c'était un dommage collatéral. T'sais, leur but, c'était pas de tuer des Tutsis. Leur but, c'était de gagner la guerre. Parce qu'avant le génocide, il y avait une guerre civile. Leur but, c'était de gagner la guerre coûte que coûte. Puis c'est un peu ça. Le problème, c'est coûte que coûte, ça a coûté beaucoup de millions de vies. Puis, il y en avait que c'était même pas ça. Il y en a eu des cas où, tu sais, que les gens se sont fait libérer, et en fait, non, finalement, c'était pas ça, ou des sentences très, très réduites. Parce que ce qu'ils avaient fait, c'est d'avoir eu peur, de s'être renfermé, puis de plus avoir donné d'ordre à personne. Et là, en ne donnant pas d'ordre, puis en étant en situation de contrôle, bien, ça fait en sorte que les gens faisaient tout autour d'eux. Bref, il y a plusieurs situations différentes, mais tu sais, ton cerveau réussit tout le temps à trouver une explication logique. Mais après ça, tu regardes ça, tu dis, ouais. Mais c'est pas proportionnel. Je veux dire, la valeur de gagner la guerre n'était pas proportionnelle au nombre de vies qui ont été enlevées. Puis c'est de là, dans le fond, c'est là les accusations qui ont eu lieu. Puis les sentences qu'ils ont eues sont relativement assez justes, moi, je trouve.
Parle-moi un peu du point de vue personnel pour toi de comment tu as vécu ça et quel impact tu penses que ça a eu sur ta vie pendant combien de temps tu es resté là? Excuse.
Je suis resté là pendant 50 ans.
C'est quand même un gros
pas
bout de
en
ta
plein, mais à
carrière.
temps partiel, oui. Oui.
Ouais. Parle-moi un peu de l'impact de tout ça sur ta vie. l'aspect, comment le professionnel et le personnel se sont rencontrés là-dedans?
Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai eu pendant cette période, j'ai eu ma fille. Et là, j'ai commencé à trouver ça très lourd d'être dans des projets aussi. Tu sais, c'est dark, là. Tu sais, t'as le choix entre pas bon ou très pas bon, là. La personne, ça fait déjà 5 ans qu'elle est en prison. Même si elle est libérée, elle a quand même passé 5 ans de sa vie en prison. Fait que tu sais, t'as jamais le choix. C'est jamais dans le léger et dans le bon, là. C'est pas bon ou vraiment mauvais. C'est comme tes choix. Puis à un moment donné, je trouvais ça lourd. Il y a beaucoup de procédurites aussi à l'international. Tu sais, de petites choses que tu dois faire parce que tu dois le faire. Tu sais que ça va être rejeté, mais ça va peut-être aller en appel. Tout ça finissait par m'étonner. Le manque d'efficacité des gros systèmes onusiens, là, ça devient lourd sur un système. Tu sais, j'étais un peu. Puis l'autre chose, c'est que le tribunal fermait. Donc, il fallait que soit que je quitte Arusha avec mon mari qui était tanzanien et ma fille qui était tout petite, pour aller à La Haye, pour aller au Sierra Leone, pour aller au Liban, qui n'étaient peut-être pas des destinations parfaites pour un enfant de 3 ans. À l'époque surtout. Donc, tu sais, j'ai décidé de réorienter tranquillement ma carrière, mais un des impacts que ça avait eu, c'est sur ma certitude que mets n'importe qui dans une situation X de guerre, je vais peut-être en commettre un génocide. Et là, c'est que l'humain a une capacité d'adaptation. Et plus tu sais jamais si tu vas devenir un héros ou un zéro, tu sais, en gros, là. Plus que tu es focusé sur l'absolu de la chose, plus tu as de chances de prendre la mauvaise direction. Moins que tu as de respect dans le fond, moins que tu considères, plus que ton objectif est important au détriment de l'être humain, plus tu as de chances, au détriment de l'être humain, au détriment de la réalité, là. Plus de chances de te rendre très loin dans ce que tu fais. Puis le cerveau humain a une capacité d'adaptation. Tu augmentes la violence, le cerveau humain s'adapte. Tu augmentes la violence, le cerveau humain s'adapte. Tu augmentes la violence, le cerveau humain s'adapte. Donc, cette capacité d'adaptation fait en sorte que tu t'adaptes à des situations de guerre, tu t'adaptes à des situations de génocide, et ça devient ta normalité. Et c'est là que c'est dangereux. Puis prendre la mauvaise décision, ça peut se faire assez vite, je dirais. C'était pas tous à la base des gens très méchants, mais même pas du tout. Mais ils ont pris des mauvaises décisions à un moment donné dans leur vie. Vous les remettrez dans une situation, vous les emmèneriez au Canada, admettons, comme réfugiés, ces gens-là ne commettraient aucun crime. T'sais, c'est pas des criminels d'habitude, c'est pas des criminels qui sont partis de l'adolescence, qui ont commencé à faire des crimes là, qui ont continué toute leur vie, mais pas du tout. Donc c'est ça, t'sais, ça te met un peu d'humilité quand tu regardes ça, puis ouais. À peu près n'importe qui pourrait se rendre là. Puis, tu sais, prenons les bonnes décisions, regardons la réalité, mettons la réalité puis l'humanité avant des principes. Je pense que ça a été ce que j'ai retenu beaucoup de mon temps passé avec eux.
Comme tu dis, c'est lourd, mais j'apprécie beaucoup la leçon personnelle, si on peut dire. C'est pas tant, corrige-moi si j'ai tort, là, je pense pas que c'est tant que tu doutes de la bonté des gens au
Non,
fond de leur cœur.
je crois vraiment à la bonté des gens au fond de leur cœur. Ça, c'est clair. Puis même ces gens-là qui ont commis des génocides avaient des côtés très, très bons. Très bons. Vraiment, là. T'sais, avant, après, même pendant le génocide, certaines fois, malgré les horreurs, t'sais, qui ont laissé commettre ou qui ont fait commettre. Donc, c'est que je crois que t'sais, vraiment, c'est qu'ils ont pris des principes, ils ont mis des principes sur cette cause-là en particulier, au-delà de la réalité et de l'humanité qu'on doit avoir là, avec ses voisins, ses congénères, etc.
Je peux
Bonjour.
imaginer que pour certaines personnes qui auraient été dans ta position, soit dans le tribunal auquel tu participais ou dans les autres que tu viens juste de nommer, là, tu sais, le Sierra Leone aussi, pas drôle, et ainsi de suite, je peux imaginer qu'il y a comme un transfert de traumatisme, tu sais, je veux dire, comment ça s'appelle, par proxy, tu sais, juste à écouter ces histoires-là à journée longue, là, parce que ce n'est pas des histoires drôles. Est-ce qu'il y a comme un soutien de genre santé mentale là, qui fait partie de ça? Comment tu
Non.
prends soin de toi-même pour éviter de sombrer dans la dépression, là? Moi, en tout cas, je peux imaginer que tu rentres le soir chez vous, puis...
Je sais, ben, comment, pour de vrai, là, à un moment donné, ça devenait. en faisant des jokes plates, là, un peu comme un docteur qui opère quelqu'un puis qui fait des jokes plates avant d'opérer avec ses congénères. Là, on en faisait aussi des jokes plates là-dessus. Là. Ouais, il a pas tant travaillé, on a juste eu deux cette journée-là. T'sais. Genre de niaiserie qu'on pouvait dire, mais tu sais, c'était plus réfléchi, c'est que tu dédramatises, tu dépersonnalises à quelque part ce que tu vois. C'est un peu comme si tu voyais un film, parce que quand tu te mettais à y penser vraiment, puis tu regardais les trucs, tu allais juste mourir. C'est vraiment comme tu regardes un film plus ou moins bon, là. Puis ça devenait comme ça dans ton travail au jour le jour. Ce qui était dur, par contre, puis là, c'est quand tu faisais de l'interview de victimes et que là, ils te comptaient, ou même juste de témoins sans être victime, puis ils te comptaient des histoires. Et puis là, ça, tu sais, des fois, les gens se mettaient à pleurer, puis tu sentais que l'histoire était vraie, parce que des fois, c'est pas toujours la vérité, les gens. Mais quand tu sentais que l'histoire était vraie, puis que ça l'avait vraiment touché, là, des fois, c'est comme... Ah, puis tu sais, il fallait que tu la fasses parler, il fallait que tu la fasses continuer à la faire parler pour qu'elle t'explique de plus en plus en détail ce qui s'est passé pour pouvoir vérifier avec ce que tu sais si ça peut être un témoin possible. Ça, c'était dur. Ça, tu sais, c'était pousser les gens. Moi, ce que je trouvais le plus dur, c'était pousser les gens à dire ce qu'ils voulaient pas nécessairement dire, à aller dans des souvenirs qu'ils voulaient oublier plutôt que relater. Ça, c'était un côté difficile de la job. Non, à l'époque, je ne sais pas si maintenant ils en ont, avec les Nations Unies, là, du support à la psychologie de la personne, à l'époque, il n'y en avait aucun, là. Tu fais ta job, puis c'est tout, là. Mais c'est le côté que je trouvais le plus dur que de voir des photos de massacres, de trucs comme ça. À un moment donné, on dirait que tu deviens pas immunisé, mais un peu, tu sais, parce que tu en vois
C'est
tellement que.
clinique comme.
Ouais, ça devient clinique. Un peu comme un docteur qui rouvre une personne, il se demande pas, hey, vas-tu l'ouvrir, ça va-tu saigner? Non, non, tu rouvres, tu opères. Mais ça devient vraiment clinique à un moment donné. Mais quand tu es devant la personne, ça peut pas être clinique, là. C'est plus clinique. Ouais.
Je vais changer de travée un petit peu pour te demander. De me parler un peu plus de ta vie personnelle à ce moment-là, parce que ça faisait probablement pas partie de tes plans, là. Quand tu es déménagé, quand tu es allé travailler là, après être allé à La Haye, tu te retrouves à Arusha et tu as rencontré
Et
quelqu'un, puis tu as une petite fille. Alors, parle-moi un peu de qu'est-ce qui t'est arrivé.
qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on était, faut dire qu'on avait un plaisir fou à travailler là-bas aussi parce qu'on était une gang de jeunes qui avaient tous des postes d'avocat junior, dans le fond, d'assistant juridique, l'équivalent d'un avocat junior. Ils devaient avoir comme une vingtaine de procès en même temps. Fait qu'on était entre à la fois là, entre 20 et 30 jeunes qui venaient d'avocats juniors, de professionnels qui venaient d'à peu près tous les pays avec des bonnes jobs, des bonnes sommes d'argent, souvent un premier emploi, tous entre 20 et 30 ans à peu près. Donc, on faisait beaucoup la fête, on faisait beaucoup de sorties, de parties, de fois. Ça arrivait des fois qu'on louait le cinéma complet là-bas juste pour amener du popcorn puis de l'alcool puis de mettre les films qu'on voulait toute la soirée. Je veux dire, des trucs quand même assez sympathiques qu'on a fait. Rien d'extraordinaire. Mais c'était quand même une gang avec laquelle on tripait. C'était drôle. Le milieu de travail de ce côté-là, de ce côté, tu sais, puis c'est un mélange de vie sociale et de vie personnelle. Parce que tu te ramasses, tu connais personne là-bas, donc tu sors avec toute ta gang d'expats. Et ce soir-là, on était sortis dans un bar d'Arusha et je connaissais le coiffeur qui, comme dans tous les pays, sans vouloir avoir beaucoup de préjudice, était homosexuel. Donc, Ali, c'était connu qu'il était gay. Puis j'en ai avec lui sur le bord du comptoir et il faut dire qu'en Tanzanie, les gens ont en général extrêmement peur de l'homosexualité. Les Tanzaniens, même à ce jour, il y a une petite ouverture, mais encore, tu sais, c'est pas énorme. Donc, ils avaient très peur des homosexuels et je vois rentrer ce grand gars-là, j'ai un faible pour les grands gars. C'est comme un des absolus de ma vie, là. Ça a toujours un peu été, ça reste encore. Avec tu sais, des trop grandes jambes, des trop grands bras, je trouve ça très beau. Il y a un gars qui rentre comme ça et qui voit Ali, hey, salut Ali! Puis qui donne un gros hug, qui a, tu sais, physiologiquement, qui a vraiment l'air d'un Tanzanien. Fait que là, Ali me présente, ah, c'est un de mes amis, tata, tata. Fait que j'ose un peu, puis super sympathique, pas agressant, parce qu'il faut dire que les gars tanzaniens, le consentement dans un bar était vraiment autre. Là. Juste le consentement à danser, là, des fois, c'était comme, OK, non, non, c'est
C'est
pas
un
possible.
concept fluide.
C'était un concept très, très fluide, je dirais.
Peu intégré, oui, voilà.
Très peu intégré, très fluide. Mais lui, c'est super respectueux, tout ça. Parle un peu, il retourne voir ses amis, un peu plus tard, viens-tu danser? Puis, c'est gentil, il y avait comme le mètre et demi de distance que j'avais besoin, sinon, tu sais, le mètre et demi, le demi-mètre nord-américain de distance, en dedans de tout, c'est un peu pogné, il me respectait. Puis, j'étais là avec, je devais être là avec genre 5-6 de mes amis de gars. Puis, à tour de rôle, ils venaient me voir à tous les 5 minutes, es-tu correct? Es-tu correct? Parce que, il savait qu'il fallait qu'il vienne te voir, sinon des fois tu te retrouvais dans une situation très chère. Okay, okay. Puis là, au bout de 5 ans, il a fait coudon, t'as combien de bodyguards dans le bar là? Il savait très bien, il voyait ce qu'il faisait là. Fait que puis il m'a laissé sa carte, il est reparti ce soir-là, gentiment, il dit hey, appelle-moi. Puis la semaine d'après, ben je me trouvais j'étais comme tout seul, là. Tout le monde était parti. Il y avait la majorité des gens avec qui je me tenais étaient partis. Je dis, ah, je vais l'appeler, je vais aller prendre un café. Puis on est allé prendre un café. Puis après ça, on est sortis quelques fois ensemble, mais le reste c'est de l'histoire. Donc, c'est un. Dans le fond, là, pour faire un résumé court, c'est deux choses. Le fait qu'il était pas. Le fait que ce qui m'a attiré, c'était le fait qu'il était pas homophobe dans un bar. Et après ça, qu'il avait comme la compréhension de la culture nord-américaine. Ce que je savais pas, c'est qu'il travaillait comme guide, puis il avait été aux États-Unis. Enfin, ça, c'est drôle, cette histoire-là, mais. Il avait été aux États-Unis à plusieurs reprises, donc il comprenait très bien la culture nord-américaine, là, tu sais, qui touche pas au monde, il te le demande pas, tu sais, c'était comme un petit, la petite distance, fait que ça a bien été de ce côté-là. On avait comme des trucs communs. Et, tu sais, le monde était, hey, t'es en amour avec un Tanzanien. Je suis comme, non, je suis pas en amour avec un Tanzanien, je serais pas noir, je serais pas Afrique, je suis en amour avec le gars-là, point, là. Tu sais, j'ai pas eu d'autres amoureux en Tanzanie, j'ai pas
c'est
eu
pas l'exotisme.
Non, c'est pas l'exotisme. Non, c'est vraiment lui. Ben oui, un bout d'exotisme parce que tu sais ça fait partie de sa personnalité. Là. Je peux pas dire non, pas du tout. Mais c'était pas l'exotisme à tout prix. Tu sais, c'était pas n'importe quel gars qui m'aurait tenté. Là. je cherchais pas à me matcher avec un Tanzanien. C'était pas dans mes mon but, c'était pas de goûter à la saveur locale. Là. C'était vraiment juste que j'ai rencontré cette personne-là qui me plaisait vraiment bien, puis qu'on s'entendait bien sur plein de choses. Et puis, la vie a continué. Là. C'était beaucoup plus ça que juste l'exotisme.
OK. Hey, quelle belle histoire. Moi, j'aime ça au bout. Alors, je t'ai pas officiellement posé la question, mais je suis supposée te poser la question. Parle-moi des choix qui ont été déterminants dans ta vie. Il y a des grands choix, il y a des petits choix, il y a des choix qui sont faits pour nous, il y a des choix qu'on a oublié de faire ou qu'on a négligé de faire, mais qui nous sont arrivés quand même. Et donc là, on a comme fait un tour d'horizon de ta vie, de ce qui est arrivé, si on peut dire, mais prenons ça un peu plus par la lorgnette des choix. Je te laisse ça très ouvert. Tu me dis qu'est-ce que tu penses qui résonne pour toi?
Ben les gros choix, un des premiers choix, c'est de décider d'aller en droit pénal international. Ça a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. Le deuxième choix, c'est ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble avec mon conjoint. On parlait en mois et non en année quand je suis tombée enceinte. Le choix d'avoir gardé Sienna a été très déterminant dans le reste de ma vie. Tu sais, les gens, je me suis fait souvent poser la question, non, mais t'as pas pensé à faire avorter. Non, je pense que les deux, on était rendus là à vouloir être parents. Le fait que c'est arrivé très vite dans nos vies, ça fait en sorte que le deuxième a pris beaucoup plus de temps à faire, je pense. Je pense qu'on avait besoin de stabiliser la vie entre deux pays pour pouvoir en créer un deuxième être humain. Mais ça a été un choix aussi qui a déterminé les choses. Le choix de m'impliquer en tourisme aussi, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été d'être entrepreneur, ça a été un bout de ma vie qui est encore là, dans le fond. C'est pas du passé, mais c'est du passé, dans le fond, dans la quotidienneté. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur la Tanzanie, sur la gestion des ressources humaines. Ça a été vraiment, tu sais, on pense à une compagnie de safari, mais on faisait du Kilimanjaro, là. C'est 150 porteurs à gérer, là. Tu sais, c'est du monde, là. C'est beaucoup, là, au niveau de la gestion. Dans un pays qui est pas le tien, dans des situations économiques plus ou moins favorables, là, j'ai appris que que ma résilience au stress, elle est énorme. Je suis arrivée ici, puis je voyais le monde stressé. Je me disais, mais pourquoi vous êtes stressé avec la COVID? Il ne se passe rien. Restez chez vous, ça va bien aller. Là. C'est plate, là, je suis allée, mais tu sais, stressez-vous pas, là. Ça va passer. Oui, ça m'a vraiment appris une espèce de résilience au stress économique aussi, la capacité de s'en sortir avec dans des situations là où ça brasse plus. Ça a été des choix. Mais le choix de revenir aussi, ça a été, tu sais, je vis un peu l'immigration malgré tout. Ça a été une dure année, là, l'année de retour, là. Le retour au Québec, j'étais vraiment décalé sur plusieurs aspects. Ça n'a pas été facile, mais tu sais, c'est des choix que je vis bien. T'sais, j'aime l'aventure, j'aime l'espèce de continuité d'être, je pense, d'être on the edge. Ça a l'air un peu malade quand je dis ça, là, mais tu sais, je veux pas, ça te donne tout le temps un boost pour continuer. Dire, OK, ben là, on est rendu là, OK, on fait ça, on fait ci. T'sais. Je pense que j'aime pas la tranquillité, là, on va pas se le cacher. C'est pas, ça fait pas partie de mon DNA, dans le fond. Ouais, non, je pense qu'il y a ça aussi, tu l'apprentissage continuel. T'sais, moi, je me vois jamais prendre ma retraite, là. Je me vois pas à 60, liberté 55, je la comprends pas. J'ai toujours été libre de faire ce que je voulais. Fait que, tu sais, je ne vais pas arrêter à 65 ans. Je vais diminuer, je vais faire d'autres choses, je vais faire d'autres projets. Mais tu dis, arrêter ta vie active pour faire quoi? Non, ma vie, elle va toujours être active, là. Je n'ai pas ce concept-là.
Ça t'inquiète pas de prendre un break à la retraite. Ben, je pense que quand t'aimes ce que tu fais, ça donne moins. Je pense que si ma job là, dans la vie, c'était de clouer le même clou à la même place sur le même widget à tous les jours, tu sais, probablement que j'aurais un plus grand intérêt pour Liberté 55, puis toi aussi,
Probablement.
je le parie, tu sais. Mais
C'est
bon, tu fais des affaires plus le fun.
ça. Ben,
Clouer
c'est des
des clous.
affaires, oui. Je suis vraiment privilégiée d'avoir comme, pour de vrai, j'ai comme vécu trois vies en dedans de 45 ans, là. Puis on oublie l'enfance, là. J'ai comme trois carrières complètement différentes. Ce qui a causé un peu de problème au retour au Québec, parce que le monde regardait mon CV. Puis je sais pas combien d'entrevues j'ai passées. La fille des ressources humaines, elle capotait, là. Elle était comme, OK, t'as fait des trucs super intéressants, tu sais. Hey, j'allais défendre des pirates en Somalie à un moment donné, là. C'était vraiment cool. Mais, tu sais, ils regardaient ça, puis ils font comme, on sait pas où te mettre. Pourquoi t'appliques ce job-là? Je cherche une job, tu sais. J'étais sûre que je vais être bonne là-dedans, puis là-dedans. Ouais, mais c'était trop fucké, là. Ça marchait pas. Donc, les gens n'apprécient pas tant que ça, l'expérience différenciée, là. Tu sais, les CV atypiques, ça peut être atypique, mais pas trop. Le mien était vraiment comme hors norme. Fait que tout ce qui a fonctionné, c'est du bouche à oreille, des gens qui m'ont connu. Puis là, ça a fonctionné. Mais sinon, juste sur CV, là, je passais en entrevue, puis les gens, tu sais, je me suis fait dire par des filles, là, t'es le cauchemar des ressources humaines. On sait que t'es compétente, on sait pas où te mettre. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Ben, prends une chance.
Essaye-toi. Qu'est-ce que ça,
Ouais,
c'est quoi le pire qui peut
bon.
arriver, tu sais?
Ouais, vous êtes en pénurie d'emploi? Non, ouais, non. Mais tu sais, je cochais pas exactement les bonnes cases, mais si on regardait entre les lignes, j'ai coché, mais beaucoup. Mais ça fonctionnait pas. Ça a été long, là, ce côté-là. Fait que je
OK.
plains les immigrants qui ne comprennent pas le système québécois d'emploi, qui sont professionnels dans leur pays, qui arrivent, ça doit être l'enfer. Ça doit être un 5 ans d'enfer. Avant de sortir un réseau pis tout, là, au niveau de l'employabilité, là. J'ai compris ce côté-là.
Parce que toi, tu as la capacité de naviguer le système parce que tu as les codes, tu as la langue, tu as
J'ai le
les
nom, j'ai une
institutions.
DS, ça sonne pas plus québécois que ça. J'ai
Tu as
la carte, j'ai les codes.
Saint-Stanislas.
C'est ça. J'ai des réseaux de contact aussi. T'sais, malgré le fait que j'ai habité longtemps, j'ai gardé quand même un bon réseau d'amis ici. Donc, en gardant ton réseau de contact, ben, ça fait en sorte que t'es capable, des fois, là, d'avoir d'autres contacts. Puis c'est ce qui s'est passé dans la majorité des cas. J'ai le réseau familial aussi pour me soutenir. T'sais, les premiers jobs que j'ai eus, c'était ma tante qui cherchait quelqu'un pour en marketing, en gestion marketing. Donc, t'sais, ça a été de bouche à oreille comme ça, mais c'est un processus qui j'enlève mon chapeau.
Il faut avoir la tuque bien attachée.
Ah oui. Parce qu'ils vendent.
Écoute, j'aimerais ça qu'on se parle toute la journée, là, mais j'ai des petites questions plus
Vas-y.
horizontales à te poser. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis « j'aurais dû faire ça, puis je ne l'ai pas fait » ou « j'ai fait quelque chose, puis j'aurais dû, ben du don, dû pas le faire »
Pas tant, pour de vrai, là. Tu sais, des gros regrets de vie. Bon, tu sais, quand je suis revenue, j'ai regretté de ne pas avoir continué à être membre du barreau à payer mon 5 000 parce que c'était dur, l'employabilité, mais tu sais, ça, je trouve que c'est un petit regret dans la vie. Tu sais, c'est comme, ça s'est placé avec le temps. Je pense que j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Ça fait en sorte que j'ai réussi à. Je n'arrive pas à regretter grand chose. J'ai eu vraiment du fun dans ce que j'ai fait. Là. C'est pas. Je trippais, là. Ça. Fait que, tu sais, des petits regrets. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça, ça aurait été mieux. J'aurais peut-être dû, à l'époque, acheter une maison au Canada. Maintenant, ça vaudrait quatre fois le prix. Mais, tu sais, c'est des regrets monétaires qui. Je me dis, bon, ça va pas. Tu sais, attendre une couple d'années, ça va pas se compenser, là aussi, là. C'est ces côtés-là. Des gros regrets de vie, non, pas tant. Tu sais, j'ai des enfants avec qui on s'entend super bien, là. Tout le monde, ils capotent, les enfants, les teenagers, teenagers. Je m'entends super bien avec ma fille, ça va bien. Tu sais, c'est pas. Tu sais, même le fait d'être venu ici, ça a été dur, très dur la première année parce qu'elle partait en secondaire 3 d'un milieu anglophone à un milieu francophone. Fait qu'elle passait à travers la francisation. Mais tu sais, même là, tu sais, même elle regrette pas. Elle dit non, elle dit, ça a été dur, mais elle dit, c'est bien, maman, elle s'en va au cégep en français, là. Donc, non, pas de temps. Il n'y a pas de gros, gros regrets de vie. Mais c'est peut-être juste ma personnalité qui ne regrette pas grand-chose. Je sais pas.
Ça se peut. En parenthèse, donc, tu dis ta fille, elle a l'école en anglais en Tanzanie. Est-ce que vous parliez anglais à la maison, français? Comment ça se passe?
Quand ma sœur était là, parce que ma sœur, souvent, travaillait sur des chiffres, elle travaillait au milieu des mines, donc elle était comme un 3 moyenne, 3, 1 mois out. Quand elle venait à la maison, on parlait français beaucoup. Mais quand elle n'était pas là, mon mari ne parle pas français, donc on parlait beaucoup anglais, beaucoup swahili. Puis quand on venait ici, elle parlait français. Ma fille est venue plus souvent. Bref, dans le temps, mon gars était vraiment anglophone. Il était meilleur en swahili. Tu sais, ses langues, là, c'était anglais, swahili, puis français en dernier. Ma fille, elle, c'était anglais, français, swahili en dernier. Donc, tu sais, oui, elle le parlait, mais elle parlait comme un anglophone. Ça, j'ai pas été super bonne là-dessus. Là. Mais tu sais, quand t'es autour de la table et tout le monde parle anglais, tu vas pas te mettre à parler français puis il y en a moitié qui comprennent pas. C'est un problème. T'sais, si ton conjoint parle français, c'est facile de dire « Maman va parler en français puis papa va parler en anglais. » Mais quand l'autre parle pas, tu vas-tu pas faire en sorte qu'ils comprennent rien de ce que tu dis à tes enfants quand il est là? Non. Fait que ça, oui, j'aurais pu me forcer un peu plus puis leur parler plus français. Ça aurait été plus facile dans leur adaptation. Mais la vie étant ce qu'elle est, maintenant, ils parlent très bien le français tous les deux. Puis, est en secondaire, tu sais, deux ans plus tard, est en secondaire 5 normal, dans le fond. Puis, elle a l'âge de secondaire 5. Donc, elle rentre au cégep dans les temps, elle rentre au cégep à 17 ans. Donc, c'est. Ça fonctionne, tu sais, malgré tout.
C'est beau. Moi, je trouve ça super le fun, cette transition-là.
Ouais.
Ta plus grande fierté. Tu peux dire tes enfants, c'est correct, mais tu peux dire autre chose aussi. Je veux te libérer de la culpabilité si jamais tu ne peux pas dire mes enfants, c'est correct.
Mes enfants, oui, c'est sûr, ben, tes enfants, c'est une fierté, mais dans le point de vue professionnel, là, moi, je pense qu'une de mes plus grandes fiertés, ça a été de bâtir une entreprise dans un milieu en Afrique qui était à l'antipode d'un milieu favorable aux entreprises. C'est d'avoir survécu en tant que fille pendant des ans de temps à la tête de cette entreprise-là, à faire du management avec une gang de gars. Ça c'est quelque chose à être fier. C'est quelque chose qui est dû beaucoup au développement de mes capacités. Tes enfants, t'as beau être fier d'eux, c'est quand même à eux que le privilège revient. Tandis que ça, c'est à moi que le privilège revient. T'sais, s'ils sont bons, c'est à cause d'eux, c'est à cause de toi nécessairement tout le temps.
Et l'entreprise existe toujours, je dois dire. Là. Donc, t'es revenu au Québec au sommet, au début de la COVID, là, au début de la pandémie, mais l'entreprise existe toujours et rebondit. Et ça, je dois dire qu'il y a de quoi être fier.
On est revenu à un chiffre d'affaires à peu près à 80% du pré-pandémique. Là. Non, c'est une entreprise qui, tu sais, puis c'est les mêmes gens. Les gens nous ont suivis, les Tanzaniens avec qui on travaillait, nous ont suivis pendant tout le processus, là. Même pendant la pandémie, ça a été difficile, mais, tu sais, moi, le geste que j'ai pris, c'est que je me retire, je prends plus mon salaire pendant X temps, ça va être lent. Et ce qu'on a fait, au début, on a coupé le monde de moitié du salaire. Puis après ça, ça a été au quart de salaire parce qu'il n'y avait aucune aide financière, là. On est obligé de mettre à la porte à peu près la moitié du staff. Mais la moitié du staff que j'ai mis à la porte, qui dépendait uniquement, là, du staff de bureau, j'ai continué à leur payer une aide de subsistance. C'est une espèce de bien-être social minimum. Là, on parlait d'un 100 $ par semaine. Mais là-bas, en Afrique, je savais que ce 100 $-là, ça permettait à leur famille de se nourrir. Fait que tout le monde était payé ça pendant toute la pandémie, à être assis chez eux. Fait que je pense que des gens ont été extrêmement bons, extrêmement généreux aussi. Quand il y a eu un retour de balancier, quand ils voulaient revenir au travail, ils sont revenus au travail. Puis je travaille encore avec la même équipe, là, que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je vous dis déjà, ça fait plus que 15 ans là, qu'on travaille ensemble. Là. Donc, c'est, il n'y a pas beaucoup de roulement de personnel chez East African Voyage, je dirais. C'est sûr que chez les gens expats, il y en a un peu plus parce que c'est la nature même d'un expat d'arriver puis de repartir. Mais sinon, on a quand même un fonctionnement qui fait en sorte que les gens restent pendant très, très longtemps.
C'est vraiment cool. Moi, je suis. j'ai tellement hâte d'être capable d'aller en Tanzanie puis de faire appel à vos services.
Tellement plaisir. Ça va être vraiment, c'est vraiment le fun. Pour un voyage, là, c'est vraiment un voyage. Que les gens se rappellent toute leur vie. Puis c'est un voyage qui peut être fait multigénérationnel. C'est ça qui est cool. C'est que le grand-père va tout autant que le parent, que l'enfant qui a, je dirais, en haut de 17 ans, de vous pouvoir emmener vos enfants. Il n'y a pas de problème. En bas de ça, vous pouvez aussi, mais il faut l'adapter un peu plus, le voyage. C'est tout. T'sais. Mais non, tu vois des bébés lions qui jouent ensemble. Tu ne peux pas faire comme oh, c'est ça, c'est cute. c'est clair, là. Il se passe de l'action, des fois c'est des chasses, des fois, c'est vraiment le fun, puis c'est des paysages que tu revois nulle part dans le monde. C'est vraiment beau, c'est vraiment un très beau pays là, à visiter. Avec moi, avec quelqu'un d'autre, mais allez-y, ça vaut la peine.
Ben, ça m'amène directement à ma prochaine question. Je veux qu'on parle d'avenir, mais je suis obligée de te poser cette question-là. Ça tente pas de redéménager en Tanzanie?
Pas tout de suite.
Y penses-tu?
Pas pour l'instant, pas pour les prochaines années. Tu sais, je viens de ramener tous mes enfants ici. Ils ont finalement réussi à apprendre le français. Ils se sont intégrés, ils ont des amis, tout ça. Je veux pas les redéraciner pour me rendre tourner là-bas. Je te dis pas que, tu sais, ma fille, là, elle a 17 ans, quand elle va avoir 20, 21 ans, elle va être plus à l'université ou sur le marché du travail, whatever. Mais tu sais, elle était plus autonome rendue à cet âge-là. Mon garçon, lui, va peut-être être en cinquième, sixième année. Je te dirais pas que j'irais pas faire un 6 mois là-bas. Mais, tu sais, c'est dur économiquement, en Tanzanie. Puis c'est dur d'avoir une stabilité. C'est pas avoir de l'argent, mais d'avoir la stabilité que t'as au Canada, la certitude qu'année après année, ça va être comme ça. Puis le milieu des voyages, c'est des ups et des downs. Là, je veux dire, on a vécu la pandémie, mais moi, il y a 7 ans, j'ai vécu Ebola. Puis c'est pour ça que j'étais préparée à vivre la, tu sais, Ebola, ça a quasiment tué la compagnie plus, parce que là, on était préparé, on était plus fort financièrement, puis on avait des meilleures structures. Mais Ebola, ça nous a quasiment tué, là. Puis pourtant, Ebola n'était pas en Tanzanie. Ça n'avait rien à voir. C'est en Afrique de l'Ouest. Mais tu sais, l'Afrique, dans la tête de beaucoup de gens, c'est un pays. Ça a beau être grand comme les Amériques, quelque chose en Argentine, ça ne touche pas le Canada. Dans leur tête, c'est juste un. Donc, ça avait fait un peu comme l'effet... L'effet de la pandémie, Ebola, là, ça a fait en sorte que tous les voyages s'étaient arrêtés pendant 6 mois, 1 an. Donc, on avait déjà une bonne préparation.
Donc, présentement, tu trouves que la vie au Québec,
c'est facile. Plus facile. Il y a une petite facilité. Oui, ça me... À 45 ans, il y a un côté économique, de stabilité économique qui me dérangeait en Tanzanie. Qui ne me dérangeait pas dans mes... début de ma vingtaine, début de ma trentaine, mais qui, à partir de 40 ans, commençait à me déranger. Puis au Québec, c'est beaucoup plus facile d'avoir une stabilité économique pour assurer un peu là, la pérennité de tes enfants, que ça continue bien, puis que tu arrives comme il faut. Je dirais que c'est beaucoup plus facile de ce côté-là. Fait que tant que, dans le fond, tant qu'eux vont avoir besoin de cette stabilité-là, je pense pas que je vais retourner. Je vais continuer à avoir des grands liens, je vais retourner en vacances, on va retourner en famille, je vais peut-être retourner pendant 6 mois de temps, mais sans lâcher là, ce que j'ai ici. Là. Ça, c'est pas possible pour l'instant. Parce que c'est quelque chose qui m'a manqué, puis qui est important là, à ce que je peux m'emmener ton son capital économique.
C'est clair. Mais parlons, donc, continuons de parler d'avenir. Parlons de la question du corps, parce que, bon, puis en plus, donc, t'es ici ou t'es là-bas, tu sais, je pense que la géographie, c'est quelque chose que t'as expérimenté aussi beaucoup, mais parlons de la corporalité, avoir un corps dans la deuxième moitié de la vie, il y a toutes sortes, puis on a parlé de ton grand-père, alors je pense que t'as une bonne, t'as une bonne base à suivre ou à laquelle aspirer, mais comment tu vis ça? La perspective de vieillir, en gros, puis de la santé, est-ce que ces questions-là se posent pour toi?
Pas tant, ça va être tard, là, mais... tu sais, regarde, j'ai pas encore de cheveux blancs, beaucoup, là, on les voit pas, je me teins pas les cheveux. J'ai pas l'impression d'avoir... J'ai vieilli, je vois des photos, je dis, ah oui, c'est clair que j'ai vieilli. Je le sens quand je fais le party beaucoup trop tard. Mais... à part de ça, ce qui m'a frappé, c'est récemment, il y a un an et demi, ma mère est décédée. Donc, ce qui m'a... ça m'a donné un choc du côté de... il y a une fin de vie à un moment donné qui arrive. Ça m'a donné un choc du côté de... C'est faire un peu plus attention là, à ta santé. Si j'ai fait des petites démarches, j'allais jamais voir le médecin, quasiment jamais. J'ai fait un peu plus de démarches, j'en fais encore, et ils m'ont donné un... je ronflais beaucoup, donc ils m'ont donné une machine pour l'oxygène.
CPAP,
la nuit.
Je sais pas comment ça s'appelle en français.
Un ouais. CPAP, exactement.
Un CPAP. Ça s'appelle comme ça.
Un CPAP, exactement. Puis ça a beaucoup changé mon état d'énergie. Là. C'est revenu. C'est un peu l'eau. Puis je me disais, ah, c'était le retour au Québec. Je mettais ça sur plein d'affaires. J'ai probablement. Puis là, c'est moi qui diagnostique, là, mais tu sais. Tout le monde qui me connaisse me dit oui, là, un trouble de déficit d'attention qui n'a jamais été diagnostiqué. Pas très, tu sais, assez léger, mais pas quelque chose qui est épouvantable. Jusqu'à temps, mais tu sais, c'est de l'hyperfocus, de l'hypofocus tout le temps. Tu sais, j'ai déjà montré des listes de symptômes à des collègues sans dire c'était quoi. Puis la réponse a été tu fais une description de toi ou quoi? C'est pas mal évident chez les gens qui me connaissent. Et je pensais que c'était ça qui s'est exacerbé en fin au Québec. Quand j'ai eu un CPAP, ben, j'ai réalisé que non, c'était vraiment juste physique. Là. C'est revenu à la normale, je dirais. Là. C'était pas moi qui étais en situation, c'est vraiment le corps qui lâchait. Ça m'a aussi donné un petit coup. J'ai dit, OK, là, Julie, il faut que tu fasses un petit peu plus attention à toi, puis quand tu as des symptômes, va consulter un peu plus vite. Tu aurais pu avoir ça il y a 10 ans, peut-être que ta vie aurait été mieux pendant 10 ans de temps. Mais, fait que c'est oui, c'est ça. C'est d'être plus attentif aux symptômes, puis d'aller consulter un peu plus vite. Là. C'est mes bonnes résolutions de 2023. Dans le fond, mais j'ai pas de peur, tu sais, j'ai pas d'avoir des rides, de voir ton corps changer. Ça n'a jamais été quelque chose qui me tannait beaucoup, qui me faisait peur. Tu sais, je sais pas. Je vois des gens beaucoup plus vieux autour de moi qui ont un fun fou dans la vie. Je me dis, ben, pourquoi pas moi, tu sais. C'est tout, là. Je pense pas que la vie s'arrête à 60 ans, à 65 ans, à 55. Je pense qu'à 85 ans, tu sais. Tu peux avoir un plaisir fou à vivre, puis c'est correct aussi. Moi.
J'aime ça au bout. Et j'ai une fameuse baguette magique que je prête à tous mes invités, et je suis un peu cheap, tu peux juste faire deux vœux avec ma baguette magique, mais il y en a un que tu peux utiliser pour changer ta vie, ton monde, ta réalité immédiate, puis un vœu que tu peux utiliser pour changer n'importe quoi que tu veux sur la planète. Changer le monde. Qu'est-ce que tu fais?
Dans ma vie immédiate, ça va être très, très particulier comme vœu, puis ça ne fait peut-être pas avec le discours. Là. Je mettrais une couple de millions dans mon compte en banque, ça réglerait ce que je veux régler pour l'instant. je veux dire, c'est le stress corporel, le plus gros stress, je trouve que présentement, parce que mes choix de vie ont été X en Tanzanie pendant longtemps, ça fait en sorte que je suis pas nécessairement où est-ce que je voudrais être au point de vue financier. Et que ça, je pense que ça réglerait pas mal.
T'as pas contribué à tes REER, ben.
Non, je peux pas en ouvrir de REER. Je sais même pas c'était quoi un REER avant que je tombe conseillère financière. Je pensais que tu achetais des REER. Je savais pas que un REER, c'est un compte dans lequel tu mettais des fonds mutuels. Ça, j'avais pas compris ça. Fait que c'est bien que je sois en finance. Non, ça serait vraiment ça, je dirais. C'est un peu, ça va être très, très monétaire comme vous.
C'est pragmatique, mais très utile. Monde... Moi, je suis bien pour
c'est
ça.
C'est vraiment ça. Le reste, Le reste, je pense que la vie m'emmènera bien où est-ce qu'elle veut. Pour le monde, qu'est-ce que je changerais? Je mettrais... Comment je peux dire ça? Je m'assurais que les gens considèrent l'humain avant le principe. Puis je pense que ça réglerait beaucoup de choses. T'sais, on a des principes économiques, on a des principes environnementaux, on a des principes, mais on ne peut pas... Il faut considérer l'humain dans son entièreté avant de les mettre... d'être trop sur le principe. Je pense que souvent, on est sur un principe et on oublie de considérer la réalité humaine. Un truc niaiseux, il y avait un gros débat sur la collecte des ordures. Je suis pour le tri des ordures, je suis pour le ramassage, le fait qu'on fait du compostage. Mais le compostage a commencé dans le Schlaga il y a peut-être 2 ans, une affaire comme ça, c'est très récent. Et là, ils veulent ramasser des ordures juste une fois par 2 semaines parce qu'ils veulent obliger le monde à composter. Bien, ça va faire qu'il va y avoir des ordures partout, ça va être dégueulasse. T'sais. Dans une zone hyper. Puis là, il y avait un commentateur qui disait ouais, mais ça va changer. Puis l'autre, il disait oui, mais dans une zone hyper densifiée, là, peut-être que le ramassage d'ordures va être beaucoup plus utile à la population en général que ton principe. T'sais. Le principe que les jeunes, il faut qu'ils finissent l'école en 6 ans au primaire, puis un jeune qui s'est fait redoubler, puis qui est en 5e année, mais qui se fait dire qu'il va aller en secondaire 1, on ne considère pas l'humain quand on fait ça, là. C'est pas possible, là. Je veux dire, il y a des choses comme ça, je trouve qu'on est trop sur le principe et pas assez sur la réalité humaine en arrière. C'est même que ton principe soit très beau, très bon. On est tous d'accord qu'on doit faire plus de recyclage, qu'on est tous d'accord qu'on doit faire plus de compostage, mais si pour changer des comportements, tu te mets à avoir une ville pleine de déchets en été, c'est pas mieux. Je veux dire, il faut quand même avoir un balance. Puis ça, je pense que des fois, on le perd dans nos macro-structures puis dans nos idées de principe. Et je pense que ce serait ça, mon frère.
Comme tu l'as mentionné, ça peut mener loin. Bon, le compostage dans Hochelaga, là, ça mènera pas, j'espère, au génocide.
Non, non,
Mais
mais oui.
c'est un peu là que ça
Oui.
commence, d'une façon,
Oui.
ironique.
Oui, tu sais, je veux dire, quand tu mets ton idée, l'idée de gagner la guerre, l'idée d'être une nation, l'idée, whatever, quand c'est rendu trop loin, au détriment de l'être humain qui est à côté de toi, puis pas juste un petit problème, là, au détriment du fait que tu vas le tuer, ben, tu es peut-être rendu trop loin dans tes principes, là. Ça va plus, là. Il y a un petit problème.
L'avocate est encore en toi.
Ben oui, elle est arrivée en moi malgré elle, puis je pense qu'elle va le rester toute sa vie. Je pense qu'elle était là avant que je fasse le droit, là aussi.
Dernière petite question pour toi. Quel héritage
Oui.
souhaites-tu laisser?
À mes enfants. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de plaisir.
À n'importe qui,
Dans
mais à
la
tes
vie,
enfants
mais plus
d'abord.
à mes enfants. Ben, OK, à mes enfants, moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup de plaisir dans la vie. Je trouve ça très important, tu sais, que quand ils fassent les choses, que ce soit pas toujours en compétition, en ci, en ça, mais tu sais, que ça soit le fun. Puis, je pense que quand c'est le fun, mais c'est le fun pour ton entourage, ça paraît, puis tu vas le faire avec beaucoup plus de cœur ce que tu es en train de faire. Puis, ça va paraître dans le résultat que tu vas obtenir. Puis, ça c'est un truc que j'essaie de leur enseigner. Juste avoir du plaisir à faire ce qu'ils font. Puis, peu importe c'est quoi. Pour l'humanité entière, eh hey boy, ce serait quoi l'héritage que je veux laisser? Je pense pas que je sois assez importante pour en laisser un gros. J'aimerais ça dire le contraire, mais je veux dire, si on peut penser à moi comme quelqu'un qui. Si on peut penser à moi, quelqu'un qui leur donne un petit coup de main, ça me fait très plaisir.
Moi, j'aime ça l'idée d'avoir du fun. Je trouve qu'on en on
Ouais.
n'en parle pas assez, ou on en parle, mais peut-être, je ne sais pas si on n'en parle pas bien, mais cette idée-là que d'avoir, d'être avec les autres, d'avoir du plaisir, de vivre la joie, tu sais, c'est pas
Oui, tu
rien,
sais,
là.
de rire pour rien. Non. Tu sais, je voyais en ski, on était allé en ski, puis je vais en ski avec, j'emmène le gars de Guillaume. Tu sais, dans le fond, mon patron, il est à côté de chez nous. Puis son garçon a de l'âge de mon garçon, puis on va skier, puis il aime ça, skier. Puis, tu sais, sur l'heure du midi, j'avais les deux gars qui étaient assis ensemble, un qui a 11, un qui a 8. Puis il riait, il riait. Je sais pas pourquoi il riait, là. Mais tu sais, il y en a un qui est tombé en bas de sa chaise tellement qu'il riait, là. Tu sais, c'est le fun, là. Puis tu sais, je voyais plein d'autres enfants qui faisaient des cours, qui avaient l'air stressés, qui mangeaient leur sandwich. J'étais comme, hey, vous êtes en ski, les amis, là, riez donc un peu, là, tu sais. Souriez, ayez du fun, dites des niaiseries, faites n'importe quoi, pétez un coup, whatever. Mais tu sais, je veux dire, on a oublié ça ici au Québec, des fois. On dirait qu'il y a trop d'adultes pour le nombre d'enfants, je pense. C'est trop sérieux. On est trop. On les pousse dans des affaires, des choses. Il faut qu'ils ont des régimes de vie. Ils font tel cours, tel cours, tel cours. C'est tout le temps en compétition. C'est rare. Ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent à chaque fois. Non, il faut juste qu'il y ait du fun, des fois. C'était là la paix. Laissez-les faire rien. Puis ils vont s'amuser, puis ils vont rire, puis ils vont trouver ça drôle. Je pense que ce côté-là, qu'on a beaucoup en Afrique, les gens se trouvent très drôles entre eux. Tu sais, je veux dire, ça arrive beaucoup. T'es assis sur le banc, puis c'est dans la misère des fois, là, c'est dans une pauvreté qu'on nous on trouverait extrême, là. Mais c'est assis sur la barre de maison en terre battue, puis c'est bien crampé, puis ça a le sourire jusqu'aux oreilles, puis tu te dis, voyons, comment qu'on peut, genre, être si, genre, fâché, je sais pas, on n'est pas fâché, mais on a oublié de rire, on oublie ça ici, puis pour moi, c'est quelque chose qui est important, là, puis je pense que, ouais, on a plus assez d'enfants ici, puis on les élève très seuls. C'est ton enfant, tu prends ton enfant seul, puis tu vas faire une activité avec lui. C'est pas. Un enfant seul, ça fait chier, là. Ça a besoin d'amis autour de lui, là. Deux, ça va tellement mieux. C'est vraiment le principe, là, que je pense.
J'aime ça, mais.
Bon, attends.
On donne ça en
de
héritage.
rire plus, je pense que c'est ça.
Merci, Julie Veillette, et merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 27e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou écrivez-moi à bonjour@laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.